Chapitre 3. Civil. Aucun était le prophète blanc. Et Folœil, son catalyseur, au temps où Sardus Schiff gouvernait les bordures. La famine y régnait depuis longtemps, et certains y voyaient une sanction infligée au pays parce que Sardus Prex, la mère de Sardus Schiff, avait fait brûler tous les bois sacrés, folle de douleur et de colère contre le dieu des feuilles à la disparition de Slevm, son époux, mort de la syphilis. Depuis, les pluies avaient quasiment cessé, car il ne restait plus de feuilles sacrées à laver. Les pluies ne tombent que pour cette tâche vénérable et non pour étancher la soif des hommes, ni de leurs enfants. Aucun pensait qu'en tant que prophète blanc, il avait pour mission de rendre leur fertilité aux bordures, et qu'il fallait pour cela y remettre l'eau. Il obligea donc son catalyseur à étudier le précieux liquide et les différents moyens de le faire revenir dans le pays. Puits profonds, canaux, prières et offrandes. Il lui demandait souvent ce qu'elle changerait pour que l'eau arrose de nouveau la terre de son peuple, mais jamais elle ne lui donnait de réponse qui lui convint. L'eau n'intéressait pas Folœil. Elle était née pendant les années sèches, avait grandi pendant les années sèches et ne connaissait que les années sèches et l'existence qu'elles imposaient. Elle aimait en revanche les tipis, les petits fruits aux nombreux pépins, mais à la chair tendre qui poussait à ras de terre à l'abri des ronciers, dans les anfractuosités des piémonts. Alors qu'elle aurait dû vaquer à ses tâches, elle s'éclipsait discrètement pour se rendre sur les contreforts des hauteurs et s'introduire dans les taillis, dont elle revenait les jupes et les cheveux piquetés de graines de ronce et les lèvres violettes de jus du tipi. Cela mettait en colère aucun le blanc, qui la battait souvent pour son manque d'assiduité à ses devoirs. Puis un jour, autour de leur chaumière, là où la terre restait toujours sèche et poussiéreuse, des ronces commencèrent à pousser. Les chevaux de leur tige épineuse abrita le sol du soleil, et des pieds de tipi se mirent à croître à cette ombre. À la saison où le tipi perd ses feuilles, de l'herbe grise apparut et des lapins s'installèrent sous les ronciers pour s'en nourrir. Alors, Folœil les attrapa et les cuisina pour le prophète blanc. Scribe Catherine, du prophète blanc aucun. Contrairement au conseil d'Imbre, je n'allais pas me coucher tout de suite. Je retournai à notre feu où l'ours, assis sur mon sac, regardait fixement les braises et frissonnait, lentement envahi par le froid du glacier. Je le tirai de sa somnolence et le mis au lit dans la tente que nous devions partager avec Crible et Est. L'exiguïté même de notre abri nous permettrait de profiter de la chaleur corporelle de nos voisins. Il se mussa sous ses couvertures, poussa un grand soupir qui s'acheva en crise de toux, soupira de nouveau et sombra dans le sommeil. S'entretiendrait-il avec Orti cette nuit ? Peut-être, le matin venu, trouverais-je courage de lui poser la question. Pour l'instant, je me satisfaisais de la savoir en sécurité à Castelserre. Je ressortis sous le ciel constellé. Les feux étaient presque entièrement consumés. Longue-Mèche garderait quelques braises dans un récipient, mais nous ne disposions pas de combustible en quantité suffisante pour entretenir et les flamber toute la nuit. Une pâle lueur émanait de la tente de devoir, sans doute celle d'une petite lampe. La toile du fou luisait elle aussi. On eût dit un bijou dans l'obscurité. Je m'en approchais sans bruit. Je m'arrêtais en entendant parler à l'intérieur. Je ne distinguais pas les propos échangés, mais j'identifiais sans mal les interlocuteurs. L'Est dit quelque chose et le fou fit une répartie d'un ton taquin. L'enfant éclata de rire. L'atmosphère paraissait paisible et amicale. J'éprouvais un étrange sentiment d'exclusion et faillit regagner ma tente, puis je me reprochais cette bouffée de jalousie. Le fou s'était lié d'amitié avec le petit. Et alors ? C'était sans doute ce qui pouvait arriver de mieux à l'Est. Dans l'incapacité de frapper pour m'annoncer, je me raclais la gorge sans discrétion, puis me courbais pour soulever le rabat. Un ray de lumière s'opposa sur la neige. Puis j'entrai. Après une hésitation infime, le fou répondit. Si vous voulez, veillez à ne pas apporter de neige ni de glace. Il me connaissait trop bien. J'essuyais le bas de mes choses de la main, tapais mes chaussures, puis entrais à croupetons et laissais le tissu retomber derrière moi. Le fou avait toujours possédé un don unique pour créer un petit monde où il pouvait se réfugier quand il en avait besoin, et sa tante ne faisait pas exception à cette règle. Lors de ma première visite, elle était charmante, mais vide. Désormais, il l'occupait et l'emplissait de sa présence. Au milieu, un minuscule brasero brûlait sans presque dégager de fumée, et dans l'air flottait une odeur de cuisine épicée. Lest était assis en tailleur sur un coussin à glands, tandis que le fou se tenait sur un coude, à demi allongé sur sa paillasse. Deux flèches, l'une d'un gris terne, l'autre peinte de couleurs vives et manifestement de la main du fou, reposaient sur les genoux du jeune garçon.
« Avez-vous besoin de moi, messire ? »
demanda-t-il en hâte. Je perçus dans sa voix sa répugnance à s'en aller. Je secouai la tête. « Je ne savais même pas que tu étais là, » dis-je. Comme le fou se redressait, je vis ce qui avait fait rire l'Est. Une petite marionnette pendait de sa main, accrochée à chacun de ses doigts par un mince fil noir. Je ne pus m'empêcher de sourire. Il avait sculpté un bouffon en réduction, noir et blanc. Le visage blafard représentait le sien quand il était enfant, et une chevelure blanche et duveteuse lui faisait comme une aura. Obéissant à une saccade d'un long index, le pantin m'adressa un salut.
« Eh bien, quel bon vent vous amène, Tom Blaireau ?»
me demandèrent à la fois le fou et sa création. Un léger mouvement de côté du doigt, et le petit bouffon pencha la tête dans une attitude interrogatrice. « Celui de l'envie de compagnie, » répondis-je après un instant de réflexion. Je m'assis en face de l'Est, le feu entre lui et moi. Il me lança un regard irrité, puis détourna les yeux. Le fou garda une expression neutre.
« Je vois. Bienvenue. »
Mais je ne sentis nulle chaleur dans son accueil. J'étais un intrus. Un silence gêné s'installa et je mesurai alors l'erreur que j'avais commise. L'enfant ignorait tout du lien qui nous unissait, le fou et moi, et je ne pouvais donc m'exprimer librement. De fait, je ne trouvais absolument rien à dire. L'Est contemplait le brasero d'un air maussade, attendant visiblement que je sorte. Le fou avait entrepris de décrocher le pantin de ses doigts, un fil après l'autre. Je n'ai jamais vu de tante semblable à celle-ci. Elle vient de Jamaïlia ? Même à mes propres oreilles, ma question sonnait comme une interrogation poliment creuse, lancée à une vague connaissance qu'on croise par hasard.
Du désert des pluies, plus exactement. Je pense que le tissu a été confectionné par les anciens, mais j'ai choisi les motifs dont on l'a brodé.
« Confectionné par les anciens ?»
L'Est releva la tête avec l'avidité d'un enfant qui pressent une histoire. Un sourire imperceptible joua sur les lèvres du fou. Il avait dû remarquer qu'une étincelle d'intérêt s'allumait dans mon œil aussi.
« C'est ce que disent les gens du désert des pluies, ceux qui vivent très en amont du fleuve. Ils affirment qu'il existait là de grandes cités qui abritaient les anciens. Il est plus difficile de définir la nature ou l'aspect des anciens, mais... dans certaines régions, profondément enfouies dans la vase des marécages, il y a des villes de pierre. Parfois, certains trouvent le moyen d'y pénétrer et, dans les salles demeurées sèches et intactes, découvrent les trésors d'un autre temps et d'un autre peuple. Quelques-uns des objets qu'ils en rapportent sont d'essence magique et même les habitants du désert des pluies ne comprennent pas totalement leurs propriétés ni leurs fonctions. D'autres ne diffèrent de ceux que nous pourrions fabriquer nous-mêmes que par leur qualité.
Comme celui-ci ?
L'Est leva la flèche grise.
Vous avez dit qu'il venait du désert des pluies. Je n'ai jamais vu un bois pareil.
Une fraction de seconde, le regard du fou se porta sur moi.
C'est du bois sorcier, un matériau très rare, encore plus que le tissu de ma tante, qui est pourtant plus fin que la soie et plus résistant à la fois. Je pourrais réduire toute la surface qui nous entoure en une boule qui tiendrait dans le creux de ma main. Néanmoins, tendue sur les piquets, elle se montre d'une grande solidité et d'un tissage si serré qu'elle retient la chaleur à l'intérieur et empêche l'air froid d'entrer.
L'Est effleura d'un doigt émerveillé le pan derrière lui.
Il fait bon ici, meilleur que je ne l'aurais cru possible dans une tente, et j'aime bien les dragons sur les parois.
Moi aussi. Répondit le fou.
Il se rallongea sur son lit, appuyé sur un coude, et se mit à contempler le brasero.
Les petites flammes trouvèrent un double reflet dans ses yeux. Je me laissais aller un peu en arrière, dans la pénombre, et l'étudiais. Des méplats et des angles étaient apparus sur son visage qui n'existaient pas au temps de notre jeunesse. Et la nouvelle teinte de ses cheveux semblait leur avoir donné de la substance. Ils ne flottaient plus autour de sa figure, mais tombaient sur ses épaules, lisses comme la crinière d'un cheval, et beaucoup plus fins. C'est à cause des dragons que je me trouve ici. Une fois de plus, il me jeta un coup d'œil imperceptible. Je croisais les bras et me reculais davantage dans les ombres. « Il y a des dragons dans le désert des pluies, » poursuivit-il en s'adressant à l'est, « mais un seul qui soit vigoureux et en bonne santé, une femelle. Elle s'appelle Tintaglia. » L'enfant se rapprocha encore de lui. « Alors, les marchands de Terrilleville disaient la vérité? Ils ont un dragon ?» Le fou pencha la tête, comme s'il réfléchissait avant de répondre, et de nouveau, un infime sourire joua sur ses lèvres. Enfin, il fit un signe de dénégation. « Je ne décrirai pas la chose ainsi. Je dirais plutôt qu'un dragon habite dans le désert des pluies et que Terrilleville se trouve sur son territoire. C'est une créature magnifique, bleue comme le meilleur acier et argentée comme un anneau brillant. L'avez-vous vu de vos propres yeux ?»« En effet. » Le fou sourit devant l'expression éblouie de l'enfant. « Et je lui ai parlé. » L'Est reprit son souffle. Il avait apparemment oublié ma présence. Néanmoins, je n'aurais su dire à qui de nous deux le fou s'adressait quand il reprit. « Cette tente fait partie des cadeaux qu'elle a persuadé les habitants du désert des pluies de me donner. Pourquoi leur a-t-elle demandé ça ?»« Parce qu'elle savait que je servirais ses desseins sans faillir, car nous nous sommes connus en d'autres temps et sous d'autres aspects. »« Comment ça ?» Le jeune garçon soupçonnait visiblement le fou de se moquer de lui. Pour ma part, je craignais qu'il n'en fût rien. Je ne suis pas le premier de mes semblables à entretenir des relations avec les dragons, et Tintaglia dispose de toute la mémoire de son espèce. Ses souvenirs glissent dans son esprit comme des perles étincelantes sur un fil. Il remonte au-delà du serpent qu'elle fut jadis, à l'œuf d'où sortit ce serpent, au dragon qui pondit cet œuf, au serpent que fut ce dragon, à l'œuf d'où naquit ce serpent, au dragon qui mit bas cet œuf, au serpent que ce dragon... Pitié ! S'exclama le garçon qui riait à en perdre haleine. Le fou faisait virevolter les mots comme un jongleur des massues. Et ainsi de suite, jusqu'à l'époque où elle avait connu quelqu'un comme moi. Peut-être si j'avais possédé une mémoire similaire, aurais-je pu lui dire « Ah oui ? Je me rappelle parfaitement. Quel plaisir de te revoir. Mais je ne jouis pas de tels souvenirs, et j'ai donc dû la croire sur parole quand elle m'a affirmé qu'elle ne trouverait personne de plus digne de sa confiance que moi. » Il avait adopté le rythme cadencé d'un conteur. L'enfant était suspendu à ses lèvres. « Et quel dessin devez-vous servir ? » demanda-t-il d'un ton pressant. « Ah ! » Le fou écarta ses cheveux de son visage, s'étira, et soudain, son long index se tendit vers moi. « Lui le sait. Il a promis de m'aider. N'est-ce pas, Blaireau ?» Je cherchais frénétiquement dans mes souvenirs. Avais-je promis de l'aider ou seulement de prendre ma décision le temps venu ? Je souris et, avec un esprit de répartie qui était pure comédie, je répondis. « Au moment voulu. » Je servirai mon dessein. La distance que j'établissais avec ses propos ne lui échappa point. Mais il hocha la tête comme si j'avais acquiescé à ses paroles et dit « Comme nous tous, y compris le petit Lest, fils de Buric et fils de Molly. Pourquoi m'appelez-vous ainsi ?» L'enfant parut piqué au vif. « Mon père n'est rien pour moi, rien !»«
Il n'est peut-être rien pour vous, mais vous demeurez son fils. » Vous pouvez le renier, mais vous ne pouvez l'obliger à vous renier. Il y a des liens qui ne se tranchent pas d'un mot, des liens qui sont, tout simplement. Ces liens assurent la cohésion entre le monde et le temps.
Rien ne me rattache à lui, répliqua le jeune garçon avec entêtement, et le silence régna quelque temps.
L'Est sentait qu'il avait rompu le fil de l'histoire et que le fou ne le renouerait pas de son propre chef.
Au bout d'un moment, il s'avoua vaincu et demanda « Quel but poursuit la femelle dragon pour vous amener ici ?»«
Vous le savez bien, voyons. » Le fou se redressa. « Vous avez entendu les discussions sur la grève, et je n'ignore pas la promptitude avec laquelle les bruits se propagent dans un petit groupe comme le nôtre. Vous venez tuer le dragon ? Je viens vous en empêcher.
Sauf si notre combat est juste, que le dragon nous attaque en premier. »
Le fou secoua la tête.
« Non, j'ai pour unique mission de faire en sorte qu'il reste en vie. »
Les yeux de l'Est se portèrent vers moi, puis revinrent sur l'homme naguère nommé Sire Doré. D'un ton incertain, il dit
« Alors, vous êtes notre ennemi, si vous vous opposez à nous, mais vous êtes seul. Comment pouvez-vous songer à vous dresser contre nous ?»«
Je ne me dresse contre personne. » Et je ne me considère comme l'ennemi de personne, même si ce n'est pas réciproque. L'Est, je vous dis la vérité toute simple. Je viens empêcher qu'on tue le dragon prisonnier de la classe.
L'enfant s'agita, mal à l'aise. Il me sembla voir ses pensées s'organiser dans son esprit, et quand il répondit, il me rappela tant Burik que j'en eus la gorge nouée.
J'ai prêté serment de servir mon prince.
Il s'interrompit pour reprendre son souffle, puis poursuivit d'une voix toujours troublée.
« Si vous le combattez, messire, je dois vous combattre à mon tour. »
Le fou ne l'avait pas quitté du regard pendant qu'il parlait. « Je n'en doute pas, si vous avez la conviction d'agir pour le mieux, » murmura-t-il. « Et si cette heure vient, elle arrivera bien assez tôt pour nous dresser l'un contre l'autre. Vous respecterez, j'en suis sûr, le devoir que m'impose mon cœur, comme je respecte le vôtre.
Mais, pour le moment, nous cheminons de conserve dans la même direction. Et je ne vois aucune raison qui nous interdise de partager ce que Tom Blaireau a dit chercher, une compagnie amicale. »
Une fois encore, l'enfant nous regarda tour à tour.
« Vous êtes donc amis tous les deux ?»«
Depuis de nombreuses années. » répondis-je presque en même temps que le fou déclarait.
« Bien plus que des amis, dirais-je. »
À cet instant, Civil Brisinga ouvrit brusquement le rabat de la tente et passa la tête par l'ouverture.
« C'est bien ce que je craignais !»
s'exclama-t-il avec colère. L'Est le regarda, la bouche arrondie de surprise, tandis que le fou poussait un soupir exaspéré. Le premier, je sortis de mon saisissement.
« Vos craintes n'ont aucun fondement, » fis-je à mi-voix, alors que l'Est, se méprenant sur les paroles du jeune homme, répliquait
« Jamais je ne trahirai mon prince, quel que soit celui qui me tente. »
Cette réflexion sema, je pense, la confusion dans l'esprit de Civil. Ne comprenant plus ce qui se passait réellement, il dit avec mépris
« L'Est, sors d'ici et retourne sous tes propres couvertures. »
Il ajouta à l'adresse du fou
« Et ne croyez pas vous en tirer à si bon compte. » Je ferai part de mes soupçons au prince. »
Avant que mon compagnon ou moi ayons le temps de réagir à ses propos, nous entendîmes Crible crier.
« Plus un geste, qui va là ?»
Je me précipitai au dehors, bousculant Civil et manquant de peu de le jeter par terre, ce qui ne m'aurait guère inspiré de remords. Il me suivit, tout comme l'Est et le fou. Le temps que j'atteigne le poste de faction de Crible, pratiquement tout le camp avait quitté ses couvertures pour connaître la raison de cette agitation.
« Qui va là ?»
cria encore le jeune garde, d'un ton que l'incertitude rendait d'autant plus autoritaire et furieux.
« Où ?»
demandai-je, et il tendit le doigt.
« Là !» chuchota-t-il,
et alors je vis l'ombre de l'homme, ou peut-être l'homme lui-même. La surface irrégulière de la neige déplacée par le vent et la faible lueur des feux se mêlaient à l'intense grisaille de la nuit septentrionale pour confondre apparence et réalité. Les monts qui nous dominaient jetaient une obscurité profonde sur l'étendue blanche. Je plissais les yeux. Quelqu'un se tenait à l'extrême limite de l'éclat mourant de nos foyers. Je ne distinguais que sa silhouette, mais j'eus aussitôt la conviction qu'il s'agissait de celui que j'avais aperçu dans la journée. Derrière moi, j'entendis Péotr dire d'une voix étranglée
« L'homme noir !»
Il avait un ton effrayé. Et les murmures qu'échangèrent bientôt les envoyés du Edgurd exprimaient l'inquiétude. Le fou apparut près de moi et ses longs doigts s'enfoncèrent dans mon bras. Je doute que quiconque en dehors de moi entendit la question qu'il me posa, tant il parla bas.
Qui est-ce ?
Montrez-vous ! Lança Crible. L'épée au clair, il quitta notre cercle et s'avança dans l'obscurité. Longue Mèche avait plongé une torche enduite de poids dans les braises mourantes du feu. Mais quand elle s'enflamma et qu'il la leva au-dessus de sa tête, l'intrus s'était évaporé. Il s'était évanoui comme une ombre à l'approche de la lumière. Son apparition avait jeté l'émoi dans le camp, sa disparition déclencha l'affolement général. Tout le monde se mit à parler simultanément. Crible et les autres gardes se précipitèrent là où l'ombre se tenait, alors qu'Imbre leur criait de ne pas piétiner la neige. Mais le temps que lui et moi arrivions à notre tour sur les lieux, ils avaient déjà effacé toute trace que l'inconnu aurait pu laisser. Longue Mèche haussa la torche à bout de bras. Mais nous ne pûmes relever aucune empreinte irréfutable qui s'approcha ou s'éloigna. Nous nous trouvions à l'intérieur du périmètre établi par Péotre, et nos propres pas se croisaient et se recroisaient partout. D'une voix forte, un outrilien entonna une prière à elle. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi effrayant que la supplique d'un combattant aguerri à un dieu dépourvu de compassion. C'était une invocation dure et crue qui promettait des offrandes et des sacrifices si elle acceptait de détourner son attention. Tram parut choqué, et malgré le faible éclairage de la torche, je vis Piotre blêmir. La Narcheska hébétée, les traits figés, paraissaient sculptés dans l'ivoire.
Nous avons peut-être été victimes d'une illusion, d'un jeu d'ombre et de lumière, fit Niel.
Mais nul ne prit cette idée au sérieux. Les représentants du Edgur ne proposèrent aucune hypothèse et tinrent entre eux, à mi-voix, des propos vifs, l'air inquiet. Péotre garda le silence.
Notre visiteur, quelle que soit sa nature, a disparu, déclara Imbre pour finir. Retournons-nous coucher et dormons tant qu'il fait encore nuit.
Longue Mèche, doublez la garde et ravivez les feux.
Les hommes du Edgurd, peu confiants, peut-être, dans l'efficacité de nos sentinelles, instaurèrent un tour de veille à part. Ils étendirent aussi une peau de phoque à la limite de notre bivouac et y déposèrent des offrandes. Péotre ramena la Narcheska à sa tente, mais je songeais qu'il ne dormirait sans doute guère davantage cette nuit-là. Pourquoi l'apparition l'avait-elle bouleversé à ce point? J'aurais donné beaucoup pour en savoir plus long sur cet homme noir et les légendes qui l'entouraient. Je pensais qu'Imbre voudrait s'entretenir avec moi, mais il se borna à m'adresser un regard accusateur. Je crus d'abord qu'il me reprochait de n'avoir pas fait plus d'efforts pour appréhender l'inconnu, puis je compris qu'il me faisait grief de la présence du fou à mes côtés. Comme je m'apprêtais à m'écarter, j'interrompis mon mouvement avec agacement. Moi seul déciderai de mes fréquentations, et non Imbre. Je soutins son regard avec impavidité. Il secoua imperceptiblement la tête avant de se détourner pour accompagner de voir à leur tente. Près de moi, Lest demanda.
« Que dois-je faire maintenant ?»
Je perçus dans sa voix une crainte et une inquiétude qu'il refusait d'avouer. Je m'efforçais d'imaginer ce qui m'aurait rassuré à son âge, et je me rabattis sur la sagesse de Burik. Il fallait l'occuper. Suis le prince et reste avec lui. Mieux vaut que tu dormes chez lui ce soir, car tu as l'oreille fine et le vif pour te prévenir si on approche de sa tente. Explique-le-lui et dis-lui que c'est moi qui ai suggéré que tu le surveilles. Allons, vite, va chercher tes couvertures et rejoins-le avant qu'il ne se couche. Il me dévisagea un instant, bouche bée, puis je lus sur son visage une reconnaissance sans mélange. Il planta son regard dans le mien et déclara sans rancœur ni contrainte
« Vous savez que je suis fidèle à mon prince ?»«
Je le sais, » confirmai-je. Burik avait-il affiché une mine aussi radieuse qu'en chevalerie l'avait proclamé son homme liege ? J'eus soudain le sentiment qu'on n'accordait pas à son fils sa juste valeur. Si Lest possédait la moitié du courage et de la loyauté de son père, Devoir avait désormais un joyau à son service. Comme l'enfant s'éloignait en courant dans le camp plongé dans l'obscurité, j'entendis des pas derrière moi et me retournai. Tram s'approchait, civil sur ses talons. Comme s'il lisait dans mes pensées, il dit « Ce petit fera quelqu'un de bien plus tard. »
« Si on le laisse évoluer naturellement, sans lui instiller d'appétit dévoyé, » enchaîna Civil.
Jamais je n'avais vu personne plus près de laisser libre cours à sa violence. Son marguet évoquait un fantôme neigeux à ses pieds. Je ne voulais pas de cette situation.
Je refusais les fausses allégations et je refusais le combat, mais je ne voyais pas comment les éviter. Le fou me prit de vitesse.
« Vous persistez à nourrir cette méprise, » dit-il posément.
« Toutefois, s'il faut vous le répéter,
je veux bien m'y prêter.
Je ne représente nulle menace pour cet enfant. Ce qui s'est passé chez votre mère était un subterfuge destiné à expliquer facilement mon départ précipité. Vous n'êtes pas stupide. Vous avez vu que Tom Blaireau et moi servons le prince par des moyens qu'on ne vous a jamais complètement exposés et que nul ne vous dévoilera. Abandonnez donc cet espoir. Je vous le dis en toute franchise et pour la dernière fois, je n'éprouve aucune attirance physique pour cet enfant et je n'ai pas de visée sur sa chair. Mes sentiments sont les mêmes en ce qui vous concerne. Cette déclaration aurait dû apaiser Civil si elle avait correspondu à sa véritable préoccupation. Mais tel n'était pas le cas, manifestement. Les oreilles aplaties de son marguet me l'indiquaient clairement. Le jeune homme répondit d'une voix grave. « Et ma fiancée, Sidèle, prétendrez-vous que vous n'éprouviez aucune attirance physique pour elle et n'aviez pas de visée sur sa chair quand vous avez anéanti la confiance qui nous unissait, elle et moi ?» Le silence et le froid qui se refermèrent sur nous ne provenaient pas que du glacier. J'avais rarement vu le fou peser ses mots si soigneusement avant de parler. Je m'aperçus que Niel se tenait long loin de nous, témoin de nos échanges, et que ceux qui s'apprêtaient à regagner leur tente avaient fait halte pour assister à la scène. Je me demandais comment le ménestrel interprétait nos propos et ce qu'il comprendrait de ce que pourrait dire le fou.
Sidel était une charmante enfant la dernière fois que je l'ai vue, murmura mon ami, et comme un enfant, elle se montrait prompte à l'imagination et à la fascination.
J'ai profité de son intérêt pour moi, je l'admets, et je vous en ai déjà expliqué la raison. Mais je n'ai pas anéanti la confiance entre vous. Vous seuls, tous les deux, en aviez le pouvoir, et ce pouvoir, vous l'avez utilisé. Du temps a passé depuis, et rétrospectivement, vous vous rendrez peut-être compte que l'affection qu'elle vous manifestait relevait seulement de la confiance d'une enfant, non de l'amour d'une femme. Je gagerais volontiers qu'elle n'avait connu guère d'autres jeunes gens en dehors de vous. Elle ne vous avait pas vraiment choisi, Civil. Vous vous trouviez là et ses parents approuvaient votre relation. Rien de plus. Quand je suis intervenu, qu'elle a senti la possibilité d'un choix.
N'essayez pas de me faire endosser la faute.
Le coupa Civil d'une voix grondante à laquelle son marguet fit écho.
Vous l'avez séduite et vous me l'avez volée. Puis vous l'avez rejetée en l'abandonnant au déshonneur.
Le saisissement du fou me parut presque palpable, et il resta à court de mots. Mais quand il répondit, ce fut d'une voix ferme, en possession de tout son sang-froid. Vous vous trompez. Rien de ce qui s'est produit entre Sidèle et moi ne vous a été caché, car c'était mon but, naturellement. Rien ne s'est déroulé en secret, et je ne l'ai nullement séduite. Je l'ai quittée, en effet, mais je ne l'ai pas déshonorée. Civil secoua la tête d'un mouvement trop brusque. Plus son interlocuteur s'exprimait avec mesure, plus l'agitation le gagnait.
« Non, non, vous avez tout détruit entre nous, avec vos appétits ignobles, et vous prétendez qu'il s'agissait d'un jeu ou d'un artifice. Vous avez brisé les rêves que ma mère nourrissait pour nous. Vous avez humilié le père de Sidèle au point qu'il ne supporte plus de se trouver dans la même pièce qu'elle, et tout ça par plaisanterie ? Non, non, je refuse de le croire. »
J'en avais l'estomac retourné. J'avais pris part à la comédie en question. Nous nous étions invités chez les Brezinga, sous couvert d'une partie de chasse, alors que nous suivions en réalité la trace du prince et des pies qui l'avaient enlevé. Les circonstances nous obligèrent à nous remettre précipitamment sur la piste de devoir, et Sire Doré machina une bonne raison pour que Dame Brezinga accueille favorablement notre départ. Il fit des avances éhontées à Dame Sidèle, la fiancée de Civil, et lui tourna la tête avec sa fortune, son charme et ses flatteries. Quand le jeune homme voulut s'interposer, le fou feignit d'être pris de boisson et lui fit comprendre qu'il lui ouvrirait volontiers ses draps, à lui aussi. Nous agissions uniquement dans l'intérêt du prince, afin de reprendre sa poursuite le plus vite possible, sans qu'on se demande pourquoi nous prenions congé des Brezinga si soudainement. Mais les ravages que nous avions laissés dans notre sillage me donnaient aujourd'hui la nausée. Je redoutais brusquement l'issue de la scène. « Mon prince,
Je dois vous prier d'intervenir entre Civil et le fou. Ils se disputent et je crains qu'ils n'en viennent aux mains. »
« Je suis navré, » répondit le fou, avec une si grande émotion que nul ne pouvait douter de sa sincérité. Il s'interrompit, puis reprit.
« En vérité, Civil, il n'est jamais trop tard.
Si vous aimez cette jeune fille, comme vous semblez le manifester, allez la voir à votre retour dans les six duchés et dites-le-lui. Donnez-lui le temps de devenir une femme et voyez si elle éprouve des sentiments réciproques à votre égard. Si oui, soyez heureux l'un avec l'autre. Sinon, sachez que votre relation n'aurait pas duré, que je m'y fusse, immiscé ou non. » Ce n'étaient pas les paroles que Civil voulait entendre. De cramoisi, il devint blanc et hurla tout à coup.
« J'exige réparation !»
Et il se jeta sur le fou. Une fraction de seconde trop tard, Tram tendit la main pour le retenir. Une fraction de seconde trop tard, je tentais de lui barrer le passage. Il bondit sur le fou comme un chat sur une souris, et ils roulèrent ensemble dans la neige. Civil grondait comme un marguet. Son animal ne se précipita pas dans la mêlée, retenu, je pense, par le vif de Tram. Comme je m'avançais pour séparer les combattants, le prince envoya son esprit dans le mien, alors qu'il arrivait en personne, à demi habillé. « Laissez-les vider l'Apsefitz. Mieux vaut qu'ils règlent l'affaire entre eux, plutôt que vous vous en mêliez et que le groupe se divise, chacun prenant parti pour l'un ou pour l'autre. Ce point d'infection suppure depuis longtemps, et les mots seuls ne le guériront pas.
Mais le fou ne se bat jamais. Jamais je ne l'ai vu dans une rixe.
Peu importe, » fit Imbre, avec une espèce de sombre satisfaction.
« Il se battra, qu'il le veuille ou non. »
Tout le monde pensait assister à une rapide victoire de Civil. J'avais l'avantage de connaître le fou. Malgré sa stature frêle, il avait toujours pu rivaliser de vigueur avec moi, même dans les périodes de ma vie où j'affûtais intensivement mes talents de guerrier. Un jour, alors que j'étais blessé, il m'avait porté jusque chez lui en dépit de la neige qui encombrait le chemin, et ses tours d'acrobate avaient toujours demandé autant de muscles que de souplesse. Je le savais donc capable de terrasser Civil s'il le voulait. Mais je craignais qu'il ne le voulût pas, et mon inquiétude se révéla fondée quand le jeune homme se retrouva assis sur lui. Je tressaillis en entendant le bruit des poings qui lui frappaient la poitrine, les épaules et la mâchoire.
« Faites-les cesser !» dis-je au prince d'un ton implorant. « Ordonnez-leur d'arrêter. »« Non !» « Laissons-les terminer, et qu'on n'en parle plus, »
contra Imbre. Je lui adressai un regard meurtrier, car je soupçonnais qu'il eût d'autres raisons de vouloir voir le fou subir une défaite devant tous les hommes réunis.
Dans ce cas, j'y mettrai fin moi-même.
Mais comme j'allais m'avancer, je constatai que la fortune du combat changeait déjà de camp. En se contorsionnant, le fou avait amené son bassin au niveau des hanches de Civil. Du creux d'un genou, il bloqua une des jambes de son adversaire. Puis, par une adroite virevolte, il le déséquilibra et inversa leurs positions respectives. En un clin d'œil, il fut à cheval sur le jeune homme allongé sur le dos. Abasourdi par sa vivacité, j'attendis qu'il prît sa revanche. Il n'en fit rien. Il saisit les poignets de Civil et les immobilisa, apparemment sans effort. Un filet de sang rouge sombre coulait d'une de ses narines et gouttait sur le jeune homme qui continuait à se débattre. Le fou se contenta de resserrer sa prise, et je vis la répugnance avec laquelle il lui tordit le bras, jusqu'à ce que son opposant pousse un gémissement de douleur. Non loin de là, le marguet gronda sauvagement. La main de Tram reposait simplement sur son échine, mais l'animal paraissait entravé par des fers. Tout mouvement était désormais interdit à Civil, et je percevais l'humiliation et la colère qu'éprouvait le jeune noble devant l'aisance avec laquelle l'homme au teint fauve l'immobilisait. Quand on insulte la virilité de quelqu'un, on ne s'attend guère à se voir facilement maîtrisé par cette personne.
C'est fini.
Le fou s'exprimait d'un ton net en s'adressant non seulement à son adversaire, mais à nous tous.
Tout est terminé. Je ne reparlerai plus de cette affaire avec vous.
Alors Civil cessa de se débattre. Le fou le maintint à terre encore un instant, puis il se releva, s'écarta d'un pas titubant et se redressa de toute sa taille. Comme il commençait à s'éloigner, le jeune homme se remit sur pied et bondit sur lui. Je m'élançai pour l'intercepter alors que le fou, sans même un regard derrière lui, s'écartait d'un mouvement souple.
Civil et moi nous retrouvâmes face à face dans la nuit, lui me dévisageant bouche bée, moi le toisant de tout mon haut. Il recula en chancelant, puis il pivota sur lui-même et lança au fou d'un ton venimeux.
« Vous prétendez qu'il n'est pas votre amant, mais il est prêt à se battre à votre place !»
Tel un navire sous pleine voilure, le fou traversa la nuit neigeuse pour s'arrêter devant l'adolescent, dans une posture agressive, et il déclara sans embâge. « Ce n'est pas mon amant. Il représente bien davantage pour moi, une valeur bien supérieure.
Je suis le prophète blanc. Il est mon catalyseur, et nous venons changer le cours du temps. Je viens assurer la survie de Glacefeu. »
Péotre s'était approché du cercle des spectateurs. Dans la pénombre, il tressaillit, comme si une flèche l'avait frappé. Les hommes du Hedgurd qui s'étaient attroupés avec enthousiasme pour assister au combat se mirent tout à coup à murmurer entre eux. Mais je n'eus pas le loisir de les observer. Ramassé sur lui-même comme un marguet en colère, toute son attention focalisée sur le fou, Civil gronda.
« Peu importe les titres dont vous vous parez, lui et vous, je sais ce que vous êtes !»
Il cracha ses derniers mots et bondit à nouveau. Mais cette fois, son adversaire contra son assaut. Le jeune homme tenta de lui porter de violents coups de poing, mais le fou les évita, puis saisit Séville à bras-le-corps. Pourtant, au lieu de le repousser, il le tira en avant. Alors emporté par son élan, l'adolescent s'affala à plat ventre dans la neige. Son opposant se laissa choir sur lui et l'immobilisa de rechef en roulant un bras autour de sa gorge, tandis qu'il passait l'autre sous le coude de Civil et le repliait en arrière. Le garçon jurait comme un forcené au bord des larmes lorsque le fou l'avertit d'une voix rauque.
« Nous pouvons recommencer autant de fois que vous le voudrez. Débattez-vous et je vous déboîte l'épaule. Je vous en fais la promesse. » Prévenez-moi quand vous aurez retrouvé votre calme et accepterez de renoncer. »
Je craignis que l'adolescent ne fût assez stupide pour se blesser. Étendu à plat sur lui, le fou le laissa s'épuiser en vain. À deux reprises, Civil se rejeta en arrière pour échapper à sa poigne, et chaque fois, je l'entendis gémir de douleur. Enfin, convaincu de la véracité de l'affirmation de son adversaire, il cessa de s'agiter. Mais il n'avait pas recouvré son sang-froid pour autant. Haletant, il se mit à sacrer, puis cria.
« Tout est de votre faute. Vous ne pouvez pas le nier. Vous avez tout saccagé, tout. Et aujourd'hui, ma mère est morte et je n'ai plus rien, si d'elle groupie dans le déshonneur. Et je ne puis même pas lui proposer le mariage, parce que je ne possède rien et que son père reproche à ma famille la déchéance de sa fille. Il refuse de me laisser la voir. Si vous n'étiez pas venu chez nous, rien de tout ça ne serait arrivé. Ma vie m'appartiendrait encore. »
Et le prince serait mort, ou pire. Sans m'en rendre compte, je m'étais approché des combattants. Quelqu'un avait-il pu surprendre la réponse qu'avait murmuré le fou? Avec un gémissement défait, Civil laissa retomber son visage dans la neige et ne bougea plus. Loin de l'obliger à proclamer sa reddition, le fou le lâcha et se releva. Je fis la grimace en songeant aux douleurs qu'il devait éprouver. La respiration hachée, il dit « Ce n'était pas moi. Je n'ai pas tué votre mère, je ne l'ai pas déshonorée. Prenez-vous-en au pis, qui en porte la responsabilité, non à moi. Et ne reprochez rien à une enfant dont la seule faute a été de faire la coquette avec un inconnu. Pardonnez-la. Et pardonnez-vous vous-même. On vous a pris au piège et utilisé tous les deux. » Ce discours empreint de compréhension transperça l'âme de Civil comme un coup de trocard, et sa souffrance se déversa dans la nuit. Je la sentis par l'art et le vif, semblable à un flot de poison qui s'épanchait de lui. Le fou se détourna, et le jeune homme ne se jeta pas sur lui, mais se roula en boule dans la neige, secoué par les sanglots d'une peine immense. Son marguet émit un sourd grondement de détresse et se précipita près de lui quand Trame le libéra. Le fou s'écarta d'eux à bonne distance. Le souffle court, il s'essuya le visage de sa manche, puis secoua la tête en voyant le blanc de neige du tissu maculé par le rouge sombre de son sang. Il s'éloigna encore de plusieurs pas, puis se courba, les mains sur les genoux, et respira profondément l'air froid de la nuit. Le prince intervint enfin. « J'ordonne que l'affaire soit désormais close définitivement. Notre petit groupe ne peut supporter les dissensions internes. Civil, vous avez lancé votre défi et vous devrez vous satisfaire de cette réparation. Sire Doré, vous ne restez parmi nous que par ma protection. Vous avez reconnu devant témoins vous opposer à ma mission. Je l'accepte,
tout comme j'accepte la volonté de justice qui préside à la présence des envoyés du Hedgurd dans notre expédition. Mais si vous manifestez quelque rancune à Civil à cause de cette rixe, vous dépasserez les limites de ma tolérance, et nous vous bannirons, charge à vous de vous débrouiller seul. »
Ces derniers mots me firent l'effet d'une menace. Je me rapprochai du fou, toujours occupé à reprendre son souffle. Tram s'était accroupi à côté de Civil, qui gisait toujours sur le flanc, son marguet serré contre lui, comme un animal en peluche rassurant. Le maître de Vif lui parlait, mais je n'entendais que les sonorités profondes de sa voix. L'Est regardait tour à tour les récents adversaires, tiraillé entre deux loyautés. Je pris le fou par le bras pour le ramener à sa tente. Le combat terminé, il paraissait à demi hébété. « Suis ton prince, petit, » dis-je à l'Est en passant près de lui. « C'est fini pour cette nuit. Nous parlerons plus tard. » Il hocha la tête, bouche bée. Le fou trébucha et je l'empoignai plus fermement. Dans mon dos, Longue Mèche réprimanda les gardes qui s'étaient laissés distraire de leurs devoirs, et peu à peu, chacun regagna son lit. Je fis entrer mon compagnon dans sa tente, puis ressortis avec son mouchoir pour lui rapporter une compresse de neige. Quand je revins, il avait ajouté un peu d'huile dans sa minuscule chaufferette, et les flamèches bondissantes faisaient courir des ombres ondoyantes sur les pans soyeux. Il plaça une petite casserole sur le feu, puis se rassit sur son lit en se pinçant les narines entre deux doigts couverts de sang. Il avait quasiment cessé de saigner du nez, mais son visage s'assombrissait, là où les coups de Civil avaient porté. Il s'allongea avec un luxe de précaution, comme si tout son flanc gauche lui faisait mal. « Tiens, essaye ceci, » fis-je. Je m'assis près de lui et appuyai doucement la compresse sur sa joue. Il détourna le visage.
« Non, je t'en prie, c'est glacé, et j'ai déjà trop froid, »
s'exclama-t-il d'un ton plaintif. Il poursuivit avec lassitude.
« Je ne parviens pas à me réchauffer depuis que je me trouve sur cette île. »
« Peu importe, » répliquai-je sans me démonter, « garde ce pansement tant que tu saigneras du nez. Ça évitera aussi le plus gros de la tuméfaction, mais ça ne t'empêchera pas d'avoir un coquard. »«
S'il te plaît, Fitz. »
protesta-t-il d'une voix défaillante, et il saisit mon poignet de sa main nue à l'instant où le bout de mes doigts effleurait sa joue. Le choc de ce toucher mutuel m'aveugla une seconde, comme si, sortant d'une écurie obscure, j'étais passé brutalement de la pénombre au grand soleil. D'un sursaut, je m'écartai, lâchai le mouchoir plein de neige et clignai les yeux, mais ce que j'avais vu resta gravé sur l'intérieur de mes paupières. J'ignore comment j'étais parvenu à comprendre ce que j'avais aperçu. Peut-être l'explication résidait-elle dans le cercle clos que formait notre contact. Je repris mon souffle en tremblant, puis, sans réfléchir, j'approchai la main de son visage, les doigts tendus. « Je puis te guérir, » lui dis-je, stupéfait, la respiration coupée par cette découverte. L'exaltation de me savoir ce nouveau pouvoir courut dans mon sang, brûlant comme l'alcool. Je vois ce qui ne va pas, les petites lésions et les zones où le sang s'accumule anormalement sous ta peau. Fou, je suis capable de te remettre en état grâce à l'art. À nouveau, il me saisit le poignet, mais cette fois pour écarter ma main. Avec le même choc, je sentis le lien qui s'établit entre nous lorsque ses doigts enduits d'art me touchèrent. Vivement, il reporta sa prise sur la manche de ma chemise.
« Non, »
dit-il à mi-voix, mais avec un léger sourire sur ses traits déjà gonflés. « N'as-tu donc rien retenu de la guérison que nous t'avons fait subir ? Je ne possède pas de réserve à brûler pour le seul plaisir de me rétablir rapidement. Mon organisme se réparera de lui-même, à sa façon et à son rythme. » Il me lâcha. « Mais je te remercie de me l'avoir proposé. » ajouta-t-il. Un frisson me parcourut, comme celui qui agite la robe d'un cheval pour chasser une mouche. Je battis des paupières, avec l'impression de m'éveiller d'un rêve. La tentation, elle, mit plus longtemps à se dissiper, et je songeais avec une amertume ironique que je ressemblais fort à Imbre. Me savoir détenteur d'un pouvoir déclenchait le désir irrépressible de l'employer. J'étais devant le visage meurtri du fou, comme devant un tableau accroché de guingois,
Instinctivement, j'avais envie de le remettre droit. Je soupirai, puis croisai résolument les bras et m'écartai de lui.
« C'est évident, n'est-ce pas ? »
fit-il. J'acquiesçai de la tête. Mais ses propos suivants me prirent au dépourvu, car il avait complètement changé de sujet.
« Il faut trouver un moyen d'avertir la reine. Sidèle est innocente, je pense. Elle mérite qu'on lui porte secours, et dans la situation dramatique où j'ai contribué à la placer, j'espère qu'elle en recevra. »
J'ignore lequel de ses parents travaille pour l'épi et a œuvré pour l'eau de vin.
Les deux peut-être, et Sidèle subit leur opprobre parce qu'elle a joué notre jeu sans le vouloir. Quant à Civil, il ne constitue plus un bon parti pour elle, puisqu'il s'est rallié aux loin-voyants.
Naturellement. Les rapprochements s'opéraient avec clarté, ainsi expliqués. Je me remémorais la réaction des parents de la jeune fille devant l'intérêt de Sire Doré pour leur enfant. La mère avait paru avide d'en profiter. Le père était resté plus prudent. Voyait-il dans le seigneur étranger l'entremise qui donnerait aux Pis l'accès à la société de Castelserre, le bienfaiteur dont la fortune soutiendrait leur cause? Civil aurait dû prévenir de voir il y a des mois. Pourquoi n'en a-t-il rien fait? L'indignation m'étouffait. Mon prince avait pardonné au jeune noble, l'avait rétabli dans son rôle d'ami et de compagnon, et l'autre nous avait dissimulé ce renseignement crucial. Le fou secoua la tête.
À mon avis, aujourd'hui encore, Devoir ne mesure pas toutes les ramifications de l'affaire. Il nourrit peut-être quelques soupçons, mais il n'ose pas les regarder en face. Il appartient au lignage, non au Pi. Leurs actes sont si monstrueux, selon ses critères, qu'il n'imagine pas Sidèle liée à pareille conspiration.
Il se pencha, ramassa la poche de neige, l'examina d'un air douloureux, puis, avec précaution, l'appliqua sur sa pommette enflée.
« Tu ne peux pas savoir à quel point je suis fatigué d'avoir froid, » murmura-t-il.
De sa main libre, il ouvrit un coffret de bois au pied de son lit et en sortit une tasse et un bol rangés l'un dans l'autre. En dessous, il prit un petit sachet dont il fit tomber des herbes séchées dans les deux récipients. Il reprit.
« Il n'y a que de cette façon que j'arrive à emboîter les pièces. Sidèle se déshonore aux yeux de son père. Les fiançailles sont rompues.
Civil suppose que le père l'a surprise dans mon lit, car il ne voit pas d'autre explication possible. Et il m'accuse donc d'avoir détruit ce qui existait entre elle et lui. Mais il se trompe du tout au tout. » Un des parents de Sidèle obéit au Pi, peut-être les deux. Ils se sont servis de leurs étroites relations avec les Brezinga pour intercepter des messages destinés à Civil et y répondre à sa place. Ils ont fait en sorte que le prince soit invité à résider chez lui de façon non officielle, et c'est sans doute par eux que lui a été remise la marguette qu'il a donnée à Devoir. À coup sûr, ils avaient pour objectif de marier leur fille avec Civil afin d'adjoindre sa fortune et sa position à la cause des Pi. Mais la jeune fille les a mis en défaut en jetant son dévolu sur moi, et notre présence a été le grain de sable qui a bloqué les rouages de ce premier plan d'épi. Voilà comment Sidèle a chu dans le déshonneur. Il poussa un soupir, se rallongea et déplaça la compresse sur son visage.
Mais avoir résolu l'énigme ne m'apporte qu'un maigre réconfort.
Je m'arrangerai pour que Ketriken soit mise au courant, promis sans préciser par quels moyens.
Toutefois, si nous avons percé un mystère, nous en affrontons un plus grand encore. Qui est l'inconnu ?
Le fou s'exprimait d'un ton songeur.
L'homme noir ? Naturellement.
Je haussai les épaules. Un reclus quelconque qui vit sur l'île en acceptant les offrandes des visiteurs superstitieux et en attaquant ceux qui ne lui laissent pas de présents. C'est l'explication la plus simple. Imbre m'avait enseigné qu'elle se révélait souvent exacte.
Le fou secoua lentement la tête, puis m'adressa un regard incrédule. « Non, tu ne peux pas croire cela. Jamais je n'ai senti quelqu'un porteur d'autant d'augure. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai jamais éprouvé pareille sensation d'importance. Et cet homme en a une immense, Fitz. » C'est peut-être l'homme le plus important que nous ayons jamais croisé. N'as-tu donc pas perçu la portée de son être qui flottait dans l'air comme une brume ? Il écarta la poche de neige de son visage et se pencha vers moi le regard ardent. Une dernière goutte de sang pendait au bout de son nez. Je la lui désignai d'un geste et il l'essuya de sa manche maculée de rouge. « Non, » répondis-je, « je n'ai rien senti de tel. À la vérité, oh, Eda et elle, pourquoi ne m'en aperçois-je que maintenant ?» Je n'ai rien vu quand la sentinelle a crié, puis, quand on me l'a montré du doigt, j'ai cru ne voir que son ombre, parce que mon vif ne détectait rien, rien du tout. Il était aussi absent qu'un forgisé. Il est forgisé, fou. Et ça signifie qu'il est capable des actes les plus imprévisibles. Un grand froid m'envahit malgré la douce chaleur qui régnait dans la tente. Il y avait de nombreuses années que j'avais eu affaire au forgisé, mais j'avais gardé un souvenir impitoyablement précis de cette époque. Apprenti assassin d'Imbre, j'avais compté parmi mes missions de tuer autant de ces malheureux que je le pouvais, par les moyens les plus expéditifs. L'image de tous ces habitants des six duchés que j'avais éliminés m'obsédait encore. Bien que je n'eusse pas eu le choix, je le savais. La forgisation dépouillait ses victimes de toute humanité et ne connaissait pas de remède.
Forgiser ? Certainement pas.
La réponse étonnée du fou interrompit mes réflexions. Il secoua la tête.
Non, Fitz, il ne s'agit pas d'un forgisé, mais quasiment du contraire, si pareille chose est possible. J'ai senti en lui le poids de 100 existences, l'importance de 10 héros. Il dévie le destin, un peu comme toi.
Je ne comprends pas, dis-je mal à l'aise. J'avais horreur que le fou s'exprimât ainsi. Lui adorait cela. Il se pencha vers moi, les yeux brillants d'enthousiasme. Tout en parlant, il ôta la petite casserole du feu et versa l'eau fumante dans la tasse et le bol. Je humais une odeur de gingembre et de cannelle.
Le temps, le plus infime des instants, regorge de points de choix. Nous y sommes si bien habitués que, moi-même, je dois parfois faire l'effort de me rappeler que j'opère constamment des choix alors que je n'en ai pas l'impression. Chaque respiration constitue un acte décisif, mais cette conscience s'impose quelquefois de l'extérieur. Il m'arrive de rencontrer des personnes aux possibilités et au potentiel si grand qu'elles ébranlent la réalité par leur simple existence. J'ai encore ce sentiment devant toi. L'improbabilité de ton apparition me laisse le souffle coupé. J'ai découvert relativement peu d'avenirs possibles où tu sois présent. Dans la plupart, tu disparais, enfant. Dans d'autres, je ne crois pas avoir besoin de te décrire toutes les façons dont tu péris dans des lignes temporelles voisines. Combien de fois n'as-tu pas échappé de la manière la plus invraisemblable aux mâchoires de la mort? Eh bien, crois-moi, Fitz, dans des mondes parallèles aux nôtres, tes jours ont pris fin à ces moments-là. Pourtant, te voici devant moi, toujours vivant, toujours avec moi. Véritable défi à la logique statistique. Et par ta seule existence, à chacune de tes respirations, tu modifies le temps tout entier. Tu m'évoques un coin enfoncé dans une bille de bois sec. Chaque battement de ton cœur te plonge plus profondément dans ce qui pourrait être. Et à mesure que tu progresses, tu ouvres une fracture dans l'avenir. Tu mets au jour 100 000 possibilités nouvelles qui se ramifient et se multiplient elles-mêmes par centaines, par milliers.
Il s'interrompit pour reprendre son souffle et il éclata de rire devant ma mine sombre.
« Eh oui, mon catalyseur, c'est ce que tu fais, que ça te plaise ou non. » Et j'ai éprouvé la même impression ce soir devant l'homme noir. Les possibilités miroitaient en si grand nombre autour de lui que je le distinguais à peine. Il est encore plus improbable que toi.
Il tira un mouchoir noir de sa manche, en essuya le sang qui tachait son visage et ses mains, puis le remit en place après l'avoir replié, le côté maculé à l'intérieur. Il se laissa aller ensuite sur ses coussins, les yeux fixés sur le faîte de sa tente dans la pénombre.
Et je n'ai aucune idée de son identité ou de sa nature. Je ne l'ai jamais aperçu dans mes visions. Qu'est-ce que cela signifie ? Fallait-il
que nous venions sur cette île pour rendre possible son influence sur l'avenir. »
Il me tendit le bol fumant en s'excusant.
« Je n'ai apporté qu'une tasse. Je ne voulais pas m'encombrer, tu comprends ?»
Je pris le récipient et savourai la chaleur de son contact. Je me rappelais soudain avec étonnement que le plein été régnait dans les six duchés. Au milieu d'un glacier, dans les îles d'outre-mer, le soleil semblait bien faible. Le fou saisit la tasse, puis parcourut ses affaires du regard, les sourcils légèrement froncés.
« Tu as emprunté mon miel, n'est-ce pas ? Tu ne l'aurais pas sur toi, par hasard ? Je trouve que son goût fait ressortir l'arôme du gingembre et que la tisane réchauffe mieux. »
Je regrette. Je l'ai laissé dans ma tente. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je l'ai oublié près du feu la nuit dernière et ce matin il avait disparu. Je me tus soudain avec l'impression qu'une clé venait de tourner dans une serrure. Ou bien on l'avait volé. Fou, les Outriliens avaient déposé des offrandes pour l'homme noir. Il n'y a pas touché, mais il y avait du miel parmi elles. Or le tien s'était évanoui ce matin.
Tu penses qu'il l'aurait pris, qu'il aurait cru à une offrande de ta part ?
Je jugeais son exaltation subite sans proportion avec mes hypothèses. Je bus une gorgée de tisane. La brûlure du gingembre se répandit en moi et me détendit autant que les paroles du fou m'avaient effrayé. Je pencherais plutôt pour quelqu'un du camp qui s'en serait emparé. Comment aurait-il pu se faufiler au milieu de nos tentes sans se faire voir ?
Sans se faire voir ? Et sans que personne sente sa présence, fit le fou. Tu le dis invisible pour ton vif. Les autres vifiers éprouvent sans doute la même difficulté. À mon avis, c'est lui qui a volé le miel. Et ainsi, il a uni son destin au nôtre. Un lien s'est créé entre nous, Fitz.
Il porta sa tasse à ses lèvres et ferma les yeux pour mieux savourer le breuvage chaud. Il la reposa quasiment vide. Il prit un couvre-lit qui paraissait aussi fin et immatériel que la toile de sa tente, le drapa sur ses épaules, ôta ses bottes souples et ramena ses pieds minces sous ses cuisses.
Il a établi une relation entre lui et nous deux. Ce geste risque d'avoir d'immenses répercussions. Il peut même changer l'issue de notre mission, surtout si j'annonce que l'homme noir a reçu favorablement notre offrande.
J'examinai rapidement toutes les éventualités. Cette déclaration lui rallierait-elle les Outriliens ? Retournerait-elle Péotre et la Narcheska contre lui ? Dans quelle situation me retrouverais-je, moi, non seulement vis-à-vis d'eux, mais aussi d'Imbre ? Les réponses que j'obtins n'avaient rien de réconfortant. « Tu risques d'accentuer la division de notre groupe. » Il termina sa tasse avant de rétorquer.
« Non ? Je révélerai seulement la division qui existe déjà ?»
Il me regarda d'un air presque suppliant.
Je touche au point culminant de l'œuvre de toute ma vie, Fitz. Ne me demande pas de refuser les armes, les avantages que le destin m'offre. Si je dois mourir sur cette île glacée du bout du monde, permets-moi au moins de mourir en sachant que j'ai accompli mon dessein.
Je finis moi aussi mon bol et le posai près de sa tasse, puis déclarai avec fermeté. Je refuse d'écouter ces âneries, je n'y crois pas. Mais j'y croyais, et elles me glaçaient les sang plus qu'aucun froid ou aucun péril que j'eusse affronté.
Et tu t'imagines que, par ton refus, elles ne se réaliseront pas ?
Voilà ce que j'appelle une ânerie, moi, Fitz.
Accepte l'inévitable et profitons du temps qui nous reste.
Il s'exprimait avec un calme si terrible que j'eus envie soudain de le frapper. Si la mort le guettait, il ne devait pas rester si placide ni soumis, il devait la combattre, il fallait l'obliger à la combattre. Je rassemblai ma volonté. Non, je ne veux pas y croire et je ne veux pas l'accepter. Une pensée me vint, mais alors que j'essayais de la présenter sous forme de plaisanterie, elle sonna comme une menace. N'oublie pas le rôle que je tiens pour toi, prophète blanc. Je suis le catalyseur, le changeur, et je puis changer même ce que tu crois définitivement fixé à l'avance. » À mi-phrase, je vis l'émotion transformer ses traits. Je tentais de m'interrompre, mais les mots continuèrent de sortir de ma bouche comme de leur propre volition.
Le fou avait pris une expression si figée que j'avais l'impression de voir son visage dépouillé de toute chair, dénudé jusqu'à l'os.
« Que dis-tu ? »
demanda-t-il dans un murmure plein d'horreur. Je détournai les yeux sans pouvoir m'en empêcher. « Ce que tu me répètes depuis que nous nous connaissons, rien de plus. Tu es le prophète et tu vois l'avenir, mais je suis le catalyseur et je change les événements, peut-être même ce que tu as prédit. »
« Fitz, par pitié. »
Le ton qu'il avait employé ramena mon regard sur lui. « Quoi ?» Il haletait comme s'il venait de participer à une course et de la perdre.
« Ne fais pas cela !»
fit-il implorant. « Ne cherche pas à me détourner de mon devoir. Je pensais que tu l'avais compris sur la grève. J'aurais pu échapper à mon destin, rester à Castelserre, repartir pour Terrilleville, voire rentrer chez moi, ou du moins là où j'étais chez moi autrefois. Mais non, je suis ici, j'affronte l'avenir. J'ai peur, je ne le cache pas. Et je sais que tu n'auras pas non plus la partie facile. Mais j'atteins au but que je vise depuis toujours. Tu comprends la notion de devoir envers sa famille, envers son roi. Tu ne la comprends que trop bien. Aussi, je t'en prie, conçois que je remplis mon devoir envers moi-même. Si tu décides de me barrer la route, uniquement pour m'empêcher de mourir, tu dépouilleras ma vie de toute signification. Les épreuves que nous aurons traversées ensemble jusqu'ici, nous les aurons subies pour rien. Tu me condamneras à vivre le reste de mes jours en sachant que j'ai échoué. Est-ce le sort que tu veux m'infliger ? Il me regardait d'un air pitoyable. Je lui laissai quelques instants pour reprendre son calme avant de répondre à mi-voix. Tu prétends donc que, si je te vois te faire tuer, je ne dois pas intervenir, même si je suis en mesure de te protéger. Il parut soudain incertain.
Je suppose, oui.
Mais si ce n'est pas ainsi que tu dois mourir, si un ours te met en pièces sous mes yeux alors que tu dois périr dans une avalanche, je reste les bras ballants, tu ne meurs pas de la façon prévue et tout ton travail n'aura servi à rien. Il me dévisagea un moment d'un œil inexpressif.
Mais ça, non. Je pense que tu sauras. L'heure venue, je pense que tu sauras ce que...
Et si je ne le sais pas? Si je me trompe, que se passera-t-il?
Je... ne...
Il se tut, à court de mots. Je sautai sur l'occasion. Tu vois la stupidité de ton raisonnement. Je ne pourrais pas te regarder mourir sans réagir, fou. Tu le sais aussi bien que moi. Ce serait m'obliger à devenir profondément différent de ce que je suis. Et dans ce cas, c'est toi qui opérerais le changement, non moi. Or, ne m'as-tu pas dit un jour que précipiter le changement relevait de mon rôle, non du tien? Alors, ne me demande pas de demeurer en retrait. Si le destin exige ta mort, je ne serai sans doute déjà plus de ce monde moi-même. Et dans ces conditions, je pense que plus rien n'aura garde d'importance pour toi, comme pour moi. Je me levai brusquement. Et c'est la dernière fois que nous parlerons de ce sujet. Je fais le choix de ne plus y revenir. Il est tard et je suis fatigué. Je vais me coucher. Je restai saisi devant l'expression qui envahit ses traits. Je lus dans ses yeux un soulagement sans fard. Je mesurai alors, je crois, l'abîme de peur qui béait en lui devant la tâche qui l'attendait. Le fait qu'il ne s'en fût ouvert à personne représentait le plus grand acte de courage que j'eusse jamais connu. Comme je soulevais le rabat de la tente, il m'interpella.
« Fitz, tu m'as beaucoup manqué. Ne t'en va pas. Dors ici cette nuit, je t'en prie. »
J'acceptais.